Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un truc qui saute aux yeux quand on parcourt la Belgique, cet étalement urbain presque partout, la fameuse périurbanisation.
Oui, c'est vrai que c'est très marqué ici. On se demande souvent pourquoi ce modèle s'est autant développé en Belgique, peut-être plus qu'ailleurs.
Exactement. Alors pour essayer de comprendre, on s'est appuyé sur une analyse comparative assez éclairante de Halle, Breuk et Méry. L'idée, c'est de voir les racines de cet étalement belge.
En comparant avec des pays qui, eux, semblent avoir mieux géré ça, comme la Suisse ou le Danemark. Voilà, on va explorer ça sous trois angles principaux. La politique du sol, la façon dont on produit les logements, et puis bien sûr la mobilité, la place de la voiture. Et ces trois axes sont vraiment très liés. Pour comprendre le modèle belge, il faut voir comment tout ça s'est articulé, quoi. La gestion du sol, les choix pour l'habitat, la voiture.
Commençons par le sol, alors. En Belgique, on a un peu cette impression historique que le terrain, bah, y en avait à revendre, non? Une ressource quasi illimitée?
C'est un point de départ essentiel. Contrairement à la Suisse, avec ses montagnes, ou au Danemark, avec ses côtes, la Belgique n'a pas eu cette, disons, contrainte physique forte qui oblige à planifier très tôt.
Donc, moins de pression pour réguler.
Voilà. Historiquement, il y a eu assez peu de politiques vraiment actives de gestion des sols. Et puis, il faut ajouter le poids non négligeable des propriétaires fonciers. Et aussi une certaine crainte de faire grimper les prix du terrain si on limitait trop.
Ce qui a mené à des plans d'aménagement très larges.
Les fameux plans de secteur.
Exactement. Souvent très généreux en terrain à bâtir. Et il y a aussi cette histoire d'indemnisation.
Ah oui, le fait qu'il fallait payer si on retirait un droit de construire.
Tout à fait. Ça a coûté très cher, ou ça risquait de coûter très cher. Du coup, les pouvoirs publics ont eu tendance à classer beaucoup de terrains en zones constructibles, un peu au cas où, pour éviter d'avoir à payer ces indemnités.
Donc, ça laisse la porte ouverte à l'initiative privée, voire à la spéculation. Bah oui, beaucoup de place laissée au privé et une conception du droit de propriété où l'essentiel de la plus-value, quand un terrain devient constructible, eh bien, elle revient au propriétaire. C'est un peu une vision méridionale du droit de propriété, comme disent les auteurs.
D'accord. Et alors, comment le Danemark et la Suisse s'y sont pris différemment sur ce point crucial du sol?
Alors, ils ont pris des chemins assez distincts. Le Danemark, lui, a beaucoup misé sur la fiscalité.
Des taxes spécifiques?
Oui, notamment la Grundskyld. C'est une taxe sur la valeur du terrain nu, pas sur la construction elle-même. Et d'autres taxes aussi qui découragent le fait de garder un terrain sans construire juste pour spéculer. L'idée, c'est de récupérer une partie de la plus-value pour la collectivité.
Intéressant. Et la Suisse? Pas de grosses taxes foncières là-bas, si?
Non, pas de fiscalité foncière aussi active qu'au Danemark. Mais la Suisse a d'autres leviers. D'abord, une protection très forte des terres agricoles. Ensuite, les coûts pour équiper un terrain sont élevés, à cause du relief, des lacs.
Ça freine naturellement l'étalement urbain.
Ça contribue, oui. Et surtout, un point clé. En Suisse, on n'indemnise pas systématiquement quand on impose des restrictions d'urbanisme, ce qu'on appelle des servitudes. Ça leur donne beaucoup plus de souplesse pour réduire les zones à bâtir sans faire exploser les budgets publics.
Donc, en gros, si je résume, Danemark, la taxe pour décourager la spéculation. Suisse, moins d'indemnisation, plus de facilité à restreindre.
C'est ça. Une conscience collective peut-être plus forte de la nécessité de planifier.
Et j'imagine que cette gestion du sol, ça influence directement le type de logement qu'on va construire. On arrive à la fameuse brique dans le ventre belge.
Exactement. Cette préférence pour la maison individuelle, quatre façades si possible, elle est très ancrée culturellement. Mais attention, ce n'est pas juste culturel. Ça a été activement encouragé par les politiques.
Ah oui? Comment ça?
Dès la fin du 19e siècle, il y a eu des mesures comme les abonnements de train pour les ouvriers à des prix dérisoires pour qu'ils puissent habiter loin de l'usine à la campagne. Et puis une loi importante en 1889 qui facilitait l'accès à la petite propriété.
C'était une volonté politique, voire sociale?
Oui, il y avait aussi une idée de contrôle social, de promotion des valeurs familiales, de la paix sociale, en éloignant les ouvriers des centres urbains jugés plus agités.
Et cette aide à l'achat, à la construction, ça a perduré?
Oh que oui! Pendant très longtemps, l'aide publique au logement en Belgique, c'était massivement de l'aide à la pierre, donc pour devenir propriétaire. Beaucoup moins d'aide pour les locataires.
Ce qui a eu quelles conséquences sur le marché locatif?
Un parc locatif, que ce soit public ou privé, souvent plus réduit, parfois plus cher, ou de moins bonne qualité par rapport à l'option de la propriété. Du coup, pour beaucoup de ménages, la solution la plus accessible ou la plus désirable, c'était de construire en périphérie, parfois même en autopromotion, c'est-à-dire construire soi-même sa maison.
Alors qu'en Suisse ou au Danemark, on trouve plus facilement d'autres options que la maison isolée.
Disons que les politiques de logement y sont plus équilibrées entre location et propriété. En Suisse, on trouve beaucoup d'appartements de bonne qualité, bien situés. Au Danemark, il y a une tradition d'habitat groupé, dense mais qualitative, souvent développée par des promoteurs ou des coopératives.
Ça offre des alternatives crédibles à l'étalement, en somme.
Oui, ça réduit la pression sur le modèle unique de la maison individuelle périurbaine. Et on en arrive, logiquement, au troisième pilier. Si on habite loin, dispersé, il faut bien se déplacer. La voiture devient presque une évidence, non ?
Indéniablement. La dépendance à l'automobile est particulièrement forte en Belgique. C'est lié à plusieurs facteurs. Historiquement, les coûts pour acheter une voiture étaient relativement bas comparés à d'autres pays.
Et les infrastructures ont suivi ? Clon ! On a mis le paquet sur le réseau routier. Très dense. Parfois, il faut le dire, au détriment des investissements dans le rail ou les transports en commun. C'était des choix politiques clairs pendant des décennies.
Ce qui contraste fortement avec le Danemark et la Suisse, j'imagine.
Assez radicalement, oui. Le Danemark, on l'a dit, utilise une fiscalité très très lourde pour décourager l'achat et même l'usage de la voiture. Et en parallèle, ils ont une culture du vélo extrêmement développée, soutenue par des infrastructures de premier plan.
Et la Suisse ? On voit quand même pas mal de voitures là-bas.
Oui, le taux de motorisation est élevé, comparable à la Belgique. Mais la différence, c'est l'usage. Les Suisses utilisent moins leur voiture au quotidien. Pourquoi ? Parce que les transports publics sont hyper efficaces, très bien financés, très ponctuels. Et la structure urbaine, plus dense, les rend aussi plus pertinents. Leur rail, c'est une priorité nationale constante là-bas.
D'accord, donc si on essaye de faire une synthèse, cet étalement très belge, ce n'est pas juste un accident de parcours. C'est vraiment le résultat d'une combinaison assez unique, non ?
Tout à fait. C'est un mélange de cette perception initiale d'abondance du sol, une culture un peu anti-urbaine qui valorise la propriété individuelle loin de la ville et qui a été renforcée par l'histoire politique et sociale.
Des règles du jeu pour le foncier qui ont longtemps favorisé l'initiative privée et peu la régulation collective.
Voilà. Et pour couronner le tout, des décennies de politiques qui ont mis la voiture sur un piédestal.
C'est une bonne synthèse, je crois. Ça montre bien à quel point c'est un phénomène profondément ancré, culturellement, politiquement, économiquement.
Oui, cette combinaison spécifique explique vraiment pourquoi le paysage belge a pris cette forme si particulière par rapport à ses voisins. Et on sent bien que, du coup, inverser la tendance aujourd'hui, c'est compliqué, vu ses racines profondes.
Surtout face aux coûts qui s'accumulent, hein, environnementaux, sociaux, économiques.
Absolument. Et ça pose une question pour l'avenir, au-delà des outils techniques ou fiscaux qu'on pourrait imaginer.
Laquelle ?
Est-ce que l'enjeu, ce ne serait pas aussi de, comment dire, de redécouvrir collectivement la valeur de la vie en ville, de revaloriser ce qu'on appelle l'urbanité ?
L'urbanité, c'est-à-dire ?
Pas juste la densité, non. Mais plutôt la qualité des relations sociales, la civilité, la richesse des échanges, le bien vivre ensemble dans des espaces qu'on partage. Peut-être que la clé pour limiter l'étalement, elle est aussi là, dans notre rapport affectif et culturel à la ville elle-même.
Une réflexion intéressante pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Merci à vous.